En Romains, il est question de ceux qui peuvent connaître Dieu, mais qui refusent de lui obéir. Il n'est jamais question des enfants ou des handicapés mentaux. Il n'est jamais question non plus d'être condamné à cause du péché d'Adam ou du péché originel, comme disent les témoins, l'Église catholique et d'autres églises. Cette idée du péché originel est étrangère à la Bible. La doctrine du péché originel introduite, ou au moins propagée par Augustin, vient d'une mauvaise interprétation de Romains chapitre 5, surtout les versets 12 et 19. Et il faut dire ici que le témoin se base sur ce passage pour leur doctrine du péché originel, et il appelle ça aussi, ou aussi le péché d'Adam. Considérons un moment cette doctrine du péché originel. D'abord, pour comprendre Romains chapitre 5, les versets 12 à 21, il faut se souvenir que les conditions du salut, et dans ce cas les conditions de la condamnation, ne sont pas mentionnées. Dans les versets 1 à 11 de Romains chapitre 5, il est question du salut par la foi en Christ, bien sûr. Mais cela n'est pas répété quand Paul, par exemple, dit au verset 19 que par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Voilà la citation. Mais la condition de cela n'est pas donnée. Bon, les universalistes prennent ce verset et disent, bon, cela veut dire que Christ, quand il est mort pour tous les hommes, cela veut dire que tous les hommes seront sauvés malgré leur attitude à l'égard de Dieu. Mais Paul, pourquoi ne mentionne-t-il pas la condition de la foi dans ce verset 19? Et c'est un des versets qu'on emploie pour enseigner la doctrine du péché originel. Sans doute parce qu'il a déjà, parce qu'il attend que le lecteur lise le reste de son épître, parce qu'il en parle plusieurs fois de comment on est sauvé par la foi et les conditions pour ce salut. Pourquoi Paul ne donne-t-il pas les conditions de la condamnation dans les versets 12 à 21? Parce qu'il a déjà fait en détail dans les chapitres 1 à 3. Adam, dans ce passage, et j'espère que vous avez une Bible devant vous, sinon, prenez des notes, mais quand même les passages sont marqués sur la feuille. Adam, dans ce passage, est celui qui a introduit le péché dans le monde. Mais il aussi représente l'humanité. Comme Adam, nous transgressons les lois de Dieu. Quel est donc notre héritage en Adam ? La condamnation. Nous faisons les mêmes mauvais choix que lui. Tel ancêtre, tel descendant. Vous avez vu, je crois, peut-être à Grenoble aussi, il y a la publicité, il y a un homme et son chien. Et puis il dit tel maître, tel chien. Bon, c'est la même chose avec le péché. Tel ancêtre, tel descendant. C'est comme ça que nous sommes semblables à Adam. Comme Adam a péché devant Dieu, nous aussi, nous péchons devant Dieu. En Christ, c'est autre chose. Jésus, dans ce passage, en Romains chapitre 5, s'est donné pour sauver l'homme, mais aussi il représente l'humanité nouveau, ou l'homme nouveau. Comme l'humanité en Adam est désobéissante, ainsi, l'humanité en Christ est obéissante. C'est en Christ que nous avons toutes les bénédictions qui sont mentionnées dans Romains chapitre 5, les versets 1 à 11, notamment la paix et l'espérance. C'est en Adam que nous avons toutes les, toutes les malédictions qui sont mentionnées dans les versets 12 à 21, notamment la mort et la condamnation. Paul, en Romains, les chapitres 1 à 3, ne condamne pas les païens, c'est-à-dire les non-juifs, et les juifs. Il ne les condamne pas parce qu'ils sont descendants d'Adam. Non, ils sont condamnés parce que, comme Adam, ils ont suivi leur propre chemin de péché. Tous ont péché, dit Paul. Il nous est rappelé en Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 4, et aussi en Colossiens chapitre 2, le verset 13, entre autres, que nous mourrons spirituellement et plus tard physiquement à cause de nos péchés et non pas ceux d'Adam. Un coup de poignard dans le cœur ne peut tuer un cadavre pas plus que mon péché personnel peut me tuer si je suis déjà mort à cause du péché d'Adam. Si Adam m'a tué, je ne peux pas me tuer moi-même. Et bien sûr, je parle d'un point de vue spirituel ici. J'ai dit au début de l'étude qu'il faut toujours comprendre les passages difficiles à la lumière des passages plus faciles. Que dit Ézéchiel au sujet du péché de l'homme et de sa culpabilité? On va lire dans le prophète Ézéchiel, chapitre 18, d'abord le verset 4. Ézéchiel 18, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ici, ça s'agit, ou il est sujet du péché ou de la mort spirituelle, je crois. Bon, il explique un peu ce qu'il veut dire. Verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme pendant son impurité, qui n'opprime personne, et puis donne toute une liste de choses qu'il ne fait pas et des bonnes choses qu'il fait. Et puis au verset 9, il dit, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 10. S'il a un fils qui soit viol, qui répande le sang, qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, et puis donne encore une liste de choses qu'il fait qui sont mauvaises, verset 13, ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Verset 14. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il le voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et puis encore toute la liste. Verset 18. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son péché. Et puis les versets 19 et 20. Pour moi, les versets clés. Vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Pour moi, s'il y a un passage qui explique bien ce que Dieu pense du péché, c'est ce passage-là. Et comment chacun est responsable devant Dieu, et on n'est pas un héritier du péché d'Adam. Si vous voulez comprendre Romains 5, lisez un passage plus clair comme Ézéchiel, chapitre 18. Ce que j'essaie de dire, peut-être maladroitement, mais j'essaie de le dire quand même, c'est que Romains 5 n'indique nulle part que notre association avec Adam nous impute automatiquement la culpabilité d'Adam. Nous ne sommes pas automatiquement coupables parce qu'Adam était coupable. Que dit Paul, par exemple? Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous voulez savoir pourquoi tous les hommes meurent? C'est parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et écoutez ceci, même sur ceux qui n'avaient pas péché, qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. La mort est donc le résultat du péché. Et je reviens maintenant à notre besoin devant Dieu. Mais de quelle mort s'agit-il ici? La mort spirituelle, certainement, et tôt ou tard, la mort physique. Adam n'est pas mort physiquement tout de suite, mais il a été tout de suite séparé de Dieu. Et puis il est mort plus tard, physiquement. En Romains chapitre 6, le verset 23, Paul dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et je crois que Ésaïe le prophète est plus clair. Il explique un peu mieux ce qu'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Si je pêche, je me sépare de Dieu. Et du fait que je suis séparé de Dieu, je ne bénéficie pas des bénédictions de Dieu, comme la paix et l'assurance, ou l'espérance. Que dit Ésaïe? C'est Ésaïe chapitre 59, les versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà la mort spirituelle. Il nous sépare de Dieu. Et tôt ou tard, on va mourir physiquement parce que nous sommes tous pécheurs. Mais heureusement, celui qui se soumet au Christ, il est lavé de ses péchés par le sang du Christ et ne mourra plus spirituellement. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29 nous dit, « Dieu fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et ça, c'est là la faiblesse de l'homme, je crois. L'attitude de Dieu envers la rébellion de l'homme est la même dans l'Ancien Testament aussi bien que dans le Nouveau. Par exemple, il dit à Israël, c'est en Ézéchiel chapitre 18 encore, le verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez !» En 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, nous voyons l'attitude de Dieu dans le Nouveau Testament. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La justice de Dieu exige la punition, mais l'amour de Dieu exige la grâce. Et ces deux éléments, la justice de Dieu et sa grâce, constituent ce que la Bible appelle la sainteté de Dieu. Il faut les deux côtés afin que Dieu soit saint. Et il est le saint, et le prophète Habacuc, il dit que parce qu'il est saint, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il faut donc que le mal soit détruit. Il faut détruire le péché, il faut détruire celui qui pêche. Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Mais, parce qu'il est amour aussi, Dieu a pris l'initiative de sauver l'homme de sa justice. L'homme a besoin de Dieu et donc Dieu a fait quelque chose pour lui, car tout seul, l'homme ne peut rien faire. Rien. C'est là le message de l'apôtre Paul en Romains chapitre 1, 2 et 3. Les païens ont essayé, Les Juifs ont essayé et personne n'a réussi. Dieu doit donc intervenir pour sauver l'homme. Jésus explique à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais pourquoi ou comment? Parce que Dieu, ou car Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Verset 17, « Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. » Et puis, le verset suivant, le verset 18, lui aussi s'applique fort bien à notre sujet, le salut. « Celui qui croit en lui, c'est-à-dire Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, et écoutez bien, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Les témoins aiment bien parler des noms. Bon, quel est le nom du Fils de Dieu? Quel est le nom du Fils de Dieu? Quelqu'un me dit. Certainement, vous connaissez son nom. Jésus. Il y a un autre nom aussi, n'est-ce pas?
Emmanuel.
Bon, et Emmanuel, cela veut dire quoi? Dieu avec nous. Matthieu 1, le verset 23. Mais Dieu est avec nous comment? Il est avec nous pour nous aider, pour nous secourir dans nos besoins. Il est aussi, et je crois que ça fait partie de ce nom, il est avec nous dans la personne de Jésus. Mais le nom Jésus, cela veut dire quoi? C'est l'autre nom du Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Sauveur. Sauveur. Et c'est la forme grecque du nom hébreu Yeshua, lui-même une forme tardive du nom hébreu Josué. Qui veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, Josué ou Jésus? Pardon? Littéralement, cela veut dire Yahvé et salut, ou Jéhovah et salut. Voilà le nom de Jésus. Il faut donc croire à la personne de Jésus et à son œuvre afin d'être sauvé, afin de ne pas être jugé, selon ce verset 18 en Jean chapitre 3. Celui qui croit au sang du Christ, c'est-à-dire qui reconnaît que Jésus l'a offert et qui met sa confiance en lui, pour recevoir le pardon de ses péchés, sera sauvé. C'est là la foi. Mais bien sûr, il faut aussi qu'il entre en contact avec ce sang de Jésus. Et il le fait par son obéissance, par sa soumission à la volonté de Dieu. Il le fait par son obéissance qui vient par la foi. Et si vous voulez, le thème de l'Épître aux Romains, c'est la justification par la foi. Je crois, j'obéis, Dieu me justifie. Ce sacrifice de Jésus est appelé sacrifice propitiatoire, Romains chapitre 3, verset 25, et cela veut dire que Jésus a apaisé ou rendu plus miséricordieuse la colère divine envers nos péchés. Il y a aussi l'idée de satisfaction. L'idée de satisfaction dans ce mot propitiation. Dieu, ou Jésus, pardon, par son sang, a satisfait aux exigences de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu exigeait la mort. Mais son sang a satisfait cette exigence pour nous, à notre place. Les offenses ont été réparées. Il n'y a donc aucune place pour se glorifier. Tout vient de l'initiative de Dieu, sans l'aide de l'homme. C'est là l'évangile. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, que Dieu nous aime, que Dieu agit. C'est donc par la foi que nous sommes sauvés. En d'autres termes, c'est parce que nous mettons notre confiance en le Dieu qui agit que nous agissons. Il y a des choses donc qu'il faut reconnaître afin d'être sauvé. Premièrement, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon de nos péchés. Deuxièmement, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et que Dieu a pris l'initiative pour nous sauver. Paul dit en Romains que les païens ont échoué sans la loi, les juifs ont échoué avec la loi, et puis il dit que parce qu'il n'y a pas de juste, Dieu est intervenu pour nous sauver. Ça, c'est l'évangile. Troisièmement, il faut que l'homme réponde à l'initiative de Dieu par la foi. Si quelqu'un pouvait être justifié par ses propres efforts, ce serait Abraham, le père de la nation juive. Mais la Bible dit qu'il a été justifié par sa foi. C'est l'apôtre Paul qui le dit, mais Jacques dit qu'il a été justifié par ses œuvres. Il y a un problème, peut-être. Je ne crois pas. Quand on voit ce que ces deux auteurs veulent dire, on comprend qu'ils sont d'accord. En Romains, les chapitres 1 à 4, Paul fait une distinction entre deux sortes d'obéissance. Il y a l'obéissance qui procède de la foi, c'est la foi d'Abraham. Sa foi a été démontrée par son obéissance ou ses œuvres, comme dit Jacques. Et puis, il y a l'obéissance parfaite et sans faute en vue d'une justification méritée. La première sorte d'obéissance, c'est par la foi. La deuxième sorte d'obéissance représente une observation parfaite de la loi, ce qui est impossible à l'homme. C'est ce que Paul dit en Romains 2 et 3, que les Juifs ont essayé de garder la loi parfaitement, ils ont échoué. Personne ne peut le garder. Donc, Dieu doit faire quelque chose. Donc Paul, quand il dit que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres, il pense à ceux qui essaient de mériter leur salut. Et quand Jacques parle des œuvres dans son épître, il veut dire l'obéissance par la foi ou une obéissance qui démontre la foi. Il n'oppose pas les deux systèmes de justification comme Paul le fait dans son épître de Romains. En Romains chapitre 4, les versets 4 et 5, Paul met en contraste le salut par la foi et le salut par les œuvres ou par la loi. Et il donne deux exemples pour l'expliquer. L'exemple d'un homme qui reçoit un salaire et d'un homme qui reçoit un don. On peut dire la grâce. Et très brièvement, la grâce est un don non mérité. Celui qui reçoit le salaire représente celui qui travaille pour mériter sa justification. C'est ce que font les témoins. Celui qui reçoit le don représente celui qui reçoit la justification par la foi. Son obéissance n'est pas toujours parfaite. Mais Dieu le justifie quand même à cause de sa foi. C'est ça, la grâce. Dans un sens, Abraham est notre père si nous sommes justifiés de la même manière que lui, c'est-à-dire par la foi. En Galates chapitre 3, les versets 26 à 29, Paul explique comment nous sommes enfants ou descendants d'Abraham. Bien sûr, les enfants spirituels. Galates 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dans notre baptême, et le témoin ne parle pas de cela, nous sommes revêtus de Christ. Christ devient notre peau et devient nos vêtements. Si nous voulons être en Christ, il faut le baptême, parce qu'il dit, verset 27, vous avez été baptisés en Christ. Si vous avez fait ça, vous êtes revêtus de Christ. Et puis il ajoute ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pourquoi les personnages du 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux sont-elles dignes d'être proposées en exemple à cause de leur foi? Leur foi les a poussés à obéir à Dieu. Leur obéissance n'était pas donc méritoire, mais s'exerçait par amour. Ils croyaient Dieu, ils aimaient Dieu, donc ils ont fait quelque chose, ils ont obéi à Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Verset 3. C'était par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 2. J'ai sauté ce verset par accident. C'est par la foi qu'Abel offrit, remarquez l'action, par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Verset 4. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, le verset 8. Et puis le verset 6 que j'ai sauté. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Remarquez le verbe, être agréable. Encore, ça implique l'action. Notre réponse à l'initiative de Dieu, donc, s'effectue par la foi. Le jour de la Pentecôte, Pierre convainc les Juifs qu'ils avaient crucifié le Fils de Dieu. Et ils croient maintenant au Christ. Quelle est leur question? Qu'est-ce qu'ils demandent à Pierre? Homme, frère, que ferons-nous? Il voulait répondre favorablement à l'initiative de Dieu. Dieu a donné son fils. Ils ont tué ce fils. Maintenant, ils croient à ce fils, en son fils. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et quelle est quelle réponse de leur part Pierre a-t-il demandé? Actes chapitre 2, les versets 38 et 39. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Combien de personnes ont démontré leur foi par la repentance et le baptême ce jour-là? Le verset 42 dit environ 3000. Il y a deux choses à remarquer dans ce passage en Actes chapitre 2 que je viens de lire. Premièrement, le baptême au nom de Jésus-Christ se fait pour le pardon de nos péchés et pour recevoir le don de cet esprit. Qu'est-ce que disent les témoins? Je lis de leur petite brochure cette bonne nouvelle du royaume, les pages 29 à 30. Cette immersion ne purifie pas le baptisé de ses péchés. Pierre vient de dire, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Il dit non, ça ne fait pas ça. Quoi que disent les témoins et beaucoup d'autres groupes, la Bible dit qu'au moment du baptême d'eau, les péchés sont pardonnés. C'est le point culminant, si vous voulez, de notre repentance. C'est le moment où Dieu fait son travail en nous, parce que nous nous sommes soumis à son commandement par la foi. Qu'est-ce qu'Ananias a ordonné à Paul après que celui-ci ait jeûné et prié pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il a ordonné à Paul? Acte 22, le verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, et en invoquant le nom du Seigneur. Que dit Pierre au sujet du moment du baptême dans son épître? 1 Pierre chapitre 3, on a déjà lu ce verset, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est encore plus clair. C'est au moment, selon lui, que nous entrons en Christ. Galates chapitre 3, le verset 27 encore. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En Colossiens chapitre 2, le verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui. Comment? Et puis il dit dans le verset suivant, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Encore un passage, Romains chapitre 6. Encore l'apôtre Paul qui écrit le verset 1 à 7. Paul demande, il vient de parler de la grâce dans le chapitre 5 de Romains. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Dans le baptême, on meurt avec Christ, on revêt Christ, les péchés sont pardonnés, l'homme ancien est crucifié, on ressuscite une nouvelle créature, un nouveau homme, on est mort au péché, on est libre du péché, on est sauvé. La deuxième chose à remarquer en Actes chapitre 2, les versets 37 à 39, c'est que la promesse faite à ceux qui répondent favorablement au commandement de Pierre est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. La promesse du pardon des péchés et du Saint-Esprit n'est pas limitée à un certain petit troupeau. C'est pour tous ceux qui se soumettent au Christ maintenant. Notre réponse par la foi à l'initiative de Dieu n'est que le commencement de notre vie spirituelle en Christ. Certains ont dit que le baptême, c'est la nouvelle naissance, c'est le moment où on entre dans la famille de Dieu, et c'est vrai. C'est le moment où on devient, où on est revêtu du Christ, on devient un enfant, un héritier selon la promesse, comme dit Paul en Galates chapitre 3. Par notre foi, donc, nous restons fidèles et nous nous soumettons à tous les commandements de Dieu jusqu'à la mort. C'est ça la fidélité à Dieu. Mais on le fait par la foi et on le fait parce qu'on aime Dieu, pas parce qu'on va mériter quelque chose. C'est impossible de mériter le salut. Il n'est jamais question de mériter notre salut si nous avons une foi biblique, une foi obéissante. Une fois soumis, nous n'avons plus peur d'être condamnés aussi longtemps que nous restons fidèles. En 1 Jean chapitre 1, verset 7, L'apôtre Jean dit ceci, 1 Jean 1, le verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et ce mot « purifie » et les verbes dans ce verset sont, si vous voulez, au présent et dans le sens que ça continue. C'est une promesse continuelle. Aussi longtemps qu'on marche dans la lumière, son sang efface, élimine, ils sont partis, ils ne sont plus là, nos péchés. Si Dieu a accepté de laisser mourir son Fils à notre place, combien ne devrions-nous pas être rassurés que ce qui nous attend est même plus glorieux que notre état présent. Il est certain que nous ne sommes pas toujours ce que nous devrions être. On peut toujours croître un peu plus dans la foi. Mais, par contre, nous ne sommes pas ce que nous étions. Et cela est une preuve que Dieu travaille en nous. Et qui est plus, nous ne sommes pas ce que nous serons. Et cela est notre espérance. L'espérance dans le Nouveau Testament n'est pas simplement le désir de quelque chose, le vouloir de quelque chose. C'est le désir avec en plus une attente. Il y a même une expression théologique pour définir ce que veut dire l'espérance. C'est l'expression « la grâce expectative ». Et cette grâce expectative est une attente fondée sur les promesses. Dieu a promis quelque chose, je le crois, et donc j'espère en cela, parce que je sais que ça va arriver. Un commentateur a dit que l'espérance chrétienne, ce n'est pas attendre d'une manière hésitante et tremblante que les promesses de Dieu se réalisent peut-être un jour. L'espérance chrétienne dans laquelle nous nous réjouissons est une attente confiante de la réalisation certaine des promesses de Dieu. L'apôtre Pierre, dans son épître 1 Pierre 1, les versets 3 et 4, appelle notre espérance une espérance vivante, sans doute parce qu'elle se base sur le Christ vivant qui était mort et qui vit maintenant et éternellement. L'épître aux Hébreux appelle notre espérance une ancre de l'âme sûre et solide. Notre espérance est une ancre pour nous, même que lorsque d'autres personnes sont prises dans le désespoir et le manque d'un but dans la vie. Nous avons comme but la vie éternelle avec Jésus-Christ. Oui, je crois personnellement, et j'espère que vous le croyez aussi, l'œuvre de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme Paul, je peux dire la même chose que lui. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci de votre attention.